Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, bienvenue à l'écoute de cette édition matinale du 22 octobre 2014 en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique à Washington. Avec vous, Nathalie Barge, en compagnie de Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin, au Burkina Faso, introduction prochaine d'un projet de loi pour un référendum sur la modification de l'article limitant le nombre de mandats présidentiels. Une clause qui n'a d'ailleurs jamais été appliquée, rappelle Augustin Louada, directeur du Centre pour la gouvernance démocratique.
Soit, et c'est maintenant le cas, parce que le président en place manipule la Constitution, ça a été le cas au Burkina en 1997, la clause a été supprimée.
Le président de la Guinée appelle les médecins retraités à rejoindre le front de la lutte contre Ebola. Le docteur et ancien ministre Ousmane Ba répond qu'il faut cependant les former.
Donc il faut même les médecins retraités et tout, ils ont besoin de recycler sommairement pendant 3 ou 4 jours et leur donner les moyens de se protéger eux-mêmes avant de les mettre en circulation.
Le gynécologue congolais Denis Mukwege a remporté le prix Sakharov pour les droits humains.
Et en fin d'émission, les sports et la page musicale, mais tout d'abord le journal. Le département de la sécurité intérieure des États-Unis exige dorénavant de tous les passagers en provenance du Libéria, de la Guinée et de la Sierra Leone qu'ils transitent par l'un des 5 aéroports spécialement équipés pour détecter les personnes atteintes du virus Ebola. Précision de Félix Yepassis Zembrou.
Le 11 octobre, l'aéroport international Kennedy de New York a été le premier à examiner les passagers en provenance d'Afrique de l'Ouest pour tenter d'identifier ceux présentant des symptômes associés à l'Ebola. 4 autres lui ont ensuite emboîté le pas. Il s'agit de Newark dans le New Jersey, Dulles en Virginie qui dessert la capitale, Washington DC, Horsfield à Atlanta en Georgie ainsi qu'Ower à Chicago dans l'Illinois. Selon le secrétaire à la sécurité intérieure, G. Johnson, les autorités évaluent constamment la nécessité d'imposer des restrictions supplémentaires, de renforcer le dépistage et d'imposer d'autres mesures de précaution pour protéger le peuple américain. Avant d'être admis aux États-Unis, les passagers guinéens, libériens et sierra-léonais doivent notamment se soumettre à une prise de température. Pourquoi ces 5 aéroports? Eh bien, 94% des passagers arrivant aux États-Unis en provenance des 3 pays ouest-africains où sévit l'épidémie d'Ebola transitent par eux. Un récent sondage révèle que l'Ebola est devenu l'un des 10 principaux soucis des Américains, mais se situe quand même après l'économie, le chômage et l'immigration.
Plus de 64 000 personnes ont été déplacées en 3 semaines à Bangui, où les violences se sont généralisées depuis les affrontements du 7 octobre, indique la mission de l'Organisation internationale pour les migrations en Centrafrique. Quelques 4 000 personnes ayant fui les camps sévèrement touchés sont arrivées à Bimbo, à 25 km de la capitale, selon la dernière analyse de suivi des déplacements. Une nouvelle vague de violences intercommunautaires depuis mardi pousse un certain nombre de personnes à se réfugier dans des sites établis à l'intérieur de bâtiments publics, d'églises et d'hôpitaux. Une grande partie de la population de nouveaux déplacés est originaire des 3e et 5e arrondissements, en plus des déplacements dans le secteur de Bimbo.
En Libye, des combats à l'arme lourde ont été signalés hier à l'ouest de Tripoli. Les forces pro-gouvernementales cherchent à reprendre la capitale libyenne aux mains des islamistes. Timothée Donangmaï.
Selon l'AFP, des tirs d'armes lourdes et de roquettes ont été entendus hier soir autour de la ville de Kekla, à quelques 120 km au sud-ouest de Tripoli. Noureddin Mefta, le maire de cette ville, a fait état de plus de 100 personnes tuées dans les combats depuis le 11 octobre, un bilan qui n'est pas confirmé par des sources indépendantes. Le chef du gouvernement libyen, Abdallah Al-Thani, dit avoir donné l'ordre aux forces armées de libérer Tripoli des mains de miliciens islamistes. Il a qualifié Fajr Libya, qui contrôle la capitale, de milice hors la loi. En attendant l'arrivée de l'armée, le cabinet de Thani a appelé hier les habitants de la capitale à la désobéissance civile. Le gouvernement et le parlement reconnus par la communauté internationale ont dû fuir à Tobrouk et n'ont aucun contrôle sur Tripoli, la capitale, ainsi que Benghazi dans l'est du pays.
Une troisième phase de négociation entre Bamako et des groupes armés maliens a débuté à Alger. Bagassi Koura nous en dit plus.
Le nouveau round se déroule en présence de toutes les parties maliennes, selon Ramtan Lamamra, ministre algérien des Affaires étrangères. L'objectif est de ramener la paix dans le nord malien. Avant cette reprise, le Conseil de sécurité de l'ONU les avait appelés à négocier de bonne foi et à respecter les accords de cessez-le-feu conclus en mai et juillet dernier. Pour le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, il faudra apporter la réponse à une situation d'urgence. Depuis début octobre, les djihadistes ont mené plusieurs attaques meurtrières contre la MINUSMA dans le nord du pays. Le gouvernement malien et 6 groupes armés ont signé en juillet une feuille de route. Ils s'étaient engagés début septembre dans un deuxième tour de pourparlers qui n'avait permis aucune avancée notable.
Dans l'est de la RDC, des centaines de personnes ont participé à une marche hostile à la mission de l'ONU, critiquée pour son inaction après de récents massacres dans la région. Chérubin Dorsil.
La marche s'est déroulée à Oicha, dans le nord Kivu, où 9 personnes avaient été tuées dans la nuit du 8 au 9 octobre par de présumés éléments de la rébellion islamiste ougandaise de l'Alliance des Forces démocratiques, ou ADF. Moins d'une semaine plus tard, près de 80 civils ont été massacrés à l'arme blanche dans le territoire de Beni, où se trouve la localité d'Oicha. Après ces massacres, le chef de la MONUSCO, Martin Kobleu, avait appelé au lancement le plus tôt possible d'actions militaires contre les ADF. Omar Kavota, vice-président de la société civile du Nord Kivu, a annoncé que la population de Beni a érigé des barricades pour dénoncer l'inaction de la MONUSCO. La société civile du Nord Kivu avait appelé lundi à une opération ville morte qui a été bien suivie dans les principales villes de la province.
Et le gynécologue congolais Denis Mukwege, qui a passé plus de 15 ans à soigner les femmes et les filles victimes de violences sexuelles dans l'est de la RDC, est le gagnant cette année du prix Sakharov pour les droits humains. Le Parlement européen a choisi à l'unanimité le docteur Mukwege pour son combat pour la protection des femmes. Il se verra décerner le prix le 26 novembre à Strasbourg, en France. Le docteur Mukwege a fondé son hôpital de Panzi à Bukavu en 1998 pour traiter les victimes de violences sexuelles en relation avec la guerre.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des militants syriens disent qu'un parachutage d'armes et de munitions de l'armée américaine destiné aux combattants kurdes près de la ville frontalière de Kobané est tombé entre les mains des militants du groupe État islamique. L'Observatoire syrien pour les droits de l'homme a déclaré mardi que les insurgés se sont emparés de la cache d'armes après que l'US Air Force ait largué les fournitures dimanche soir. Une vidéo d'un média pro-djihadiste montre un combattant masqué inspecter des grenades, des munitions et des lance-roquettes tout en exprimant sa joie devant la trouvaille. Le Pentagone affirme que 27 des 28 largages ont atterri au bon endroit et ont été récupérés par les combattants kurdes. Des experts sont en train d'analyser la vidéo en question, a indiqué le porte-parole de la défense John Kirby. Les djihadistes possèdent déjà énormément d'armes américaines provenant de l'armée irakienne dont ils se sont emparés lors de la déroute des soldats sur leur avancée en Irak.
Jeffrey Foley, un des 3 Américains détenus en Corée du Nord, a été libéré, mais Pyongyang dit que les 2 autres sont toujours en garde à vue. Les autorités américaines ont annoncé mardi que Foley était sur le chemin du retour. Il s'était rendu en Corée du Nord avec un visa touristique. Il a été arrêté après avoir déposé une Bible dans un restaurant. Sa famille a nié les accusations de Pyongyang, disant qu'il était en mission liée à l'Église. Le département d'État a salué sa libération, mais s'est dit toutefois préoccupé sur le sort des 2 autres Américains qui restent en détention. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique, avec vous Nathalie Barge. En Guinée, le nombre de personnes infectées par le virus Ebola augmente encore. Pour renforcer la riposte à l'épidémie, le président Alpha Condé a reçu hier des médecins retraités et des étudiants en médecine pour les appeler à s'impliquer dans la lutte contre la maladie. Voici un reportage de Zakaria Camara à Conakry.
Nous sommes en guerre, disait le président guinéen à la presse qu'il avait reçu à Ceruturia il y a quelques semaines. L'ordre du jour était Ebola, une épidémie face à laquelle le professeur Alpha Condé entend renforcer la riposte grâce aux anciens médecins à la retraite. Le docteur Ousmane Ba, ancien député, ancien ministre, apprécie la main tendue du chef de l'État.
Un médecin n'est jamais retraité en réalité. Même quand il est retraité de la fonction publique, les malades continuent toujours à le consulter. Mais il faut que nos gens qui nous aident, médecins sans frontières, soient des gens aussi formés. Donc il faut même les médecins retraités et tout. Ils ont besoin de recycler sommairement pendant 3 ou 4 jours et leur donner les moyens de se protéger eux-mêmes avant de les mettre en circulation.
Les moyens, la formation, les insuffisances constatées depuis l'apparition du virus au mois de mars en Guinée. L'appel du président à l'endroit d'anciens médecins est l'un des sujets commentés à Conakry.
Et il faut considérer la maladie Ebola comme étant une maladie à destruction massive. Par conséquent, il faut déployer tous les moyens nécessaires pour éradiquer cette maladie.
Au lieu d'appeler les anciens médecins qui n'ont jamais suivi la formation de l'hémorragie Ebola, il faut faire appel à les médecins internationaux pour pouvoir intervenir. C'est ce qui est bon. Parce que les médecins retraités là, il y en a d'autres qui sont à la retraite pendant 15 ans, 20 ans comme ça. Ils n'ont pas l'expérience.
C'est un acte responsable. La plupart ont été formés dans les pays de l'Est, comme Cuba, la Roumanie, en Union soviétique, Tchécoslovaquie. Ils ont reçu une très bonne formation. Donc, c'est des mesures salutaires.
Si les médecins à la retraite, et s'ils ont cette expérience de l'Ebola, l'Ebola d'abord, c'est une maladie qu'on n'avait jamais connue. Mais est-ce qu'il faut appeler les médecins là? Quel sera leur avantage?
C'est une bonne idée parce que déjà l'effectif n'est pas là. Si on fait appel aux anciens qui ont déjà l'expérience, c'est une très bonne idée.
Le président Condé a reçu les médecins à la retraite et les étudiants en médecine pour leur dire combien leurs implications sont attendues. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sigiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolifar FM à Mamou.
Au Burkina Faso, un conseil extraordinaire des ministres a décidé d'introduire un projet de loi à l'Assemblée nationale pour convoquer un référendum sur la modification de l'article constitutionnel limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels. Si ce dernier verrou venait à sauter, cela permettra au président Blaise Compaoré d'embrayer sur un 5e mandat. Idriss Fall a joint à Ouagadougou le professeur Augustin Louada, directeur du Centre pour la gouvernance démocratique, qui revient sur les principaux modes de transmission du pouvoir depuis l'indépendance du Burkina Faso.
Depuis son indépendance en 1960, le Burkina Faso a connu plusieurs régimes civils, mais aussi plusieurs régimes militaires. D'une manière générale, le mode de dévolution du pouvoir, pendant très longtemps, ça a été le coup d'État militaire. Parce qu'à partir de 1966, les militaires ont pris le pouvoir, ils n'ont plus jamais rendu le pouvoir. Même lorsque on organisait des élections présidentielles, c'était des militaires qui portaient des habits civils. Et donc, depuis le président Maurice Kamerou, qui a gouverné le Burkina de 1960 à 1966, les présidents que nous avons vus se succéder dans ce pays ont été des militaires. Mais pour la première fois en 1991, avec Blaise Compaoré, nous avons amorcé un processus démocratique. Mais nous avions la possibilité, à partir de l'année prochaine, de voir pour la première fois au Burkina Faso un président sortant passer le relais à un président élu, mais le président Compaoré en a décidé autrement.
Vous parlez de ce projet qui va être déposé à l'Assemblée pour convoquer un référendum.
Tout à fait. Il faut quand même rappeler que la clause limitative du nombre de mandats présidentiels a toujours été consacrée dans les constitutions burkinabées qui ont succédé à celle de la Première République. Donc, la limitation du nombre de mandats présidentiels fait partie de la tradition constitutionnelle du Burkina. Mais ces clauses n'ont jamais été appliquées, soit parce que le régime a été interrompu par un coup d'État militaire, ça a été le cas pour la deuxième, la troisième République, soit, et c'est maintenant le cas, parce que le président en place manipule la constitution, ça a été le cas au Burkina en 1997, la clause a été supprimée, elle a été rétablie en 2000, et lorsqu'elle devait s'appliquer en 2005 pour la première fois, le Conseil constitutionnel a dit qu'on ne pouvait pas rétroactivement appliquer la clause limitative du président Compaoré. Les compteurs ont été remis à zéro. On s'approche de 2015, après que Blaise Compaoré ait entamé son deuxième et dernier mandat. On s'attendait à ce que le président accepte que des élections présidentielles libres soient organisées en 2015 pour qu'il puisse passer le relais à son successeur. Mais à la suite d'un conseil de ministres extraordinaire, il a décidé qu'un projet de loi serait transmis à l'Assemblée nationale afin de supprimer la clause qui l'empêche d'être candidat à son cinquième mandat depuis 1991.
C'était le professeur Augustin Louada du Centre pour la gouvernance démocratique au Burkina Faso.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Au Tchad, déception des victimes présumées d'Issénabré suite au récent blocage dans les relations entre le gouvernement et les chambres africaines extraordinaires chargées de juger l'ancien président tchadien. Les deux parties ne parviennent pas à s'entendre en effet sur le transfèrement de deux complices présumés d'Abré, Saleh Younous et Mahamat Djibrine, actuellement détenus à N'Djamena. Timothée Donangmaï a joint maître Jacqueline Moudeina du collectif d'avocats représentant les victimes présumées d'Issénabré.
Le transfert de deux personnes visées par le réquisitoire du procureur général des chambres africaines a été refusé. Mais maintenant, là où le bas blesse, c'est que les juges d'instruction des chambres africaines extraordinaires ont décidé d'effectuer une cinquième commission rogatoire internationale au Tchad pour pouvoir interroger et inculper ces personnes dont le transfert a été refusé. Et là aussi, le Tchad a opposé un refus. Alors, cela nous amène à conclure simplement que le Tchad a lâché les victimes.
Selon les autorités tchadiennes, les deux suspects sont cités dans deux autres procédures internes et ne sauraient donc pas être remis au tribunal spécial. Qu'en dites-vous?
Pour la commission rogatoire et pour la réponse qui a été donnée, je crois que vous pouvez laisser ces juges venir effectuer cette commission rogatoire internationale si vraiment la volonté y était que ces juges effectuent tranquillement leur commission rogatoire internationale et ces débats juridiques pourraient intervenir. Mais c'est de ne pas opposer un refus catégorique à l'annonce de l'avis de la commission rogatoire internationale.
Quelles pourraient être les implications de ce blocage selon vous?
De toute façon, nous, on ne sait rien. Nous ne pouvons pas savoir ce qui a animé l'État tchadien. Mais tout ce que nous savons, c'est que nous avons initialement porté plainte contre la seule personne de Issénabré. Et dans nos démarches et dans nos preuves produites et dans nos mémos produits, le procureur général des chambres a estimé juste, a estimé nécessaire de viser d'autres personnes. Alors maintenant, nous nous attendons à ce que la réponse nous soit donnée par rapport à notre plainte initiale. Donc nous, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de procès contre Issénabré parce qu'il y a eu un refus de transfert de deux personnes.
Qu'en est-il des procédures internes engagées contre les deux suspects? Est-ce qu'il n'y a rien à attendre de ce côté?
Là aussi, nous avons du mal à suivre cette procédure parce que nous craignons que les choses se passent très vite et contrairement à un procès juste et équitable que nous prônons. Parce que là, il y a eu une ordonnance qui a été rendue par le juge d'instruction et l'ordonnance nous a été notifiée, nous avons fait appel et la semaine dernière, le dossier était passé sans qu'on le sache à la chambre d'accusation et heureusement pour nous que ça a été une audience de renvoi. Nous pensons que d'ici jeudi, qui serait la prochaine date pour l'audience de la chambre d'accusation, nous donnera plus.
Maître Jacqueline Moudeina, du collectif d'avocats représentant les victimes présumées de l'ancien président tchadien Issénabré, était jointe à N'Djamena.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Au Mali, la ville de Bourem, dans la région de Gao, est envahie par les sables. L'ensablement est tel qu'il est devenu un frein au développement économique, social et culturel pour tout le cercle de Bourem. La circulation est difficile et les eaux du fleuve sont menacées. Voici un reportage de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
De nos jours, dans le cercle de Bourem, il n'est pas rare de voir des dunes de sable de 30 mètres de haut qui s'étendent sur une distance de 2 km, ce qui rend la circulation difficile dans le cercle de Bourem. Cette situation a des conséquences pour les populations. Drissa Maïga, directeur régional des eaux et forêts.
L'ensablement a contribué à baisser les productions agricoles. Le problème de l'ensablement a touché le transport fluvial. L'ensablement a contribué à combler toutes les mares qui constituent les zones privilégiées où les animaux s'abreuvent. C'est donc un problème. Et étant donné que sans l'eau, les pâturages sont quasiment inexploités, vous comprendrez que c'est vraiment un problème au niveau de l'élevage aussi.
À l'entrée de Bourem, pour ne pas dire à Bourem Zindo, au bord du fleuve Niger, les femmes se battent avec des palissades contre l'ensablement. Aminatou Kowa, présidente de l'association des femmes de Bourem Zindo.
Nous fixons ces dunes de sable pour notre survie. Nous n'avons pas le choix parce que nous sommes menacés par l'ensablement.
Tout au long de la route, c'est-à-dire de l'entrée de Bourem à l'intérieur de la ville, ce sont des maisons envahies par les sables. Les habitants impuissants ne peuvent rien contre l'ensablement. Même l'école de la ville n'est pas épargnée. Mais les enseignants et les élèves se débrouillent pour suivre les cours.
J'aimerais vous demander d'abord, qu'est-ce que c'est que l'environnement d'abord?
L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure, comme la terre, le fleuve et les et animaux.
De bonnes causes et conséquences.
Cet ensablement-là est dû à quoi?
Il y a aussi la progression des sables, l'envahissement du sable.
Même les bâtiments administratifs sont engloutis par les sables. Le cimetière n'a pas été épargné, ce qui rend l'identification des tombes difficile. Au centre de santé, le mur et le sable ont la même hauteur. Aïdara Aïssata Sissé, député de Bourem.
Pendant ce temps, les populations continuent à mourir de faim. Pendant ce temps, le développement est freiné. Pour l'ensablement, on ne se rend pas compte qu'il y a des gens qui meurent tout simplement parce que le développement est freiné. Tout simplement parce qu'ils ont faim, tout simplement parce que, de mon point de vue, ce qui devait être fait pour freiner l'ensablement n'est pas fait. Alors, vivement Taoussa.
Face à l'ensablement, les élus de la localité ont enclenché un combat. Amadou Touré, maire de la commune de Bourem.
Si vous ne vous battez pas contre cet ensablement-là, justement, vous ne pourrez pas vivre dans cette zone. Mais je dois dire que la bataille contre l'ensablement dépasse totalement les possibilités même de nos populations.
Si les autres populations du Nord font face à l'insécurité, la première bataille à livrer dans le cercle de Bourem est la lutte contre l'ensablement. Une bataille qui n'est pas facile à gagner. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, le doute après l'accord annoncé par le Nigeria avec Boko Haram. Y aura-t-il un cessez-le-feu? Les collégiennes de Chibok seront-elles vraiment libérées? Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique à Washington. Avec vous Nathalie Barge, à présent les sports. Et c'est pour parler des demi-finales de la CAN Dames en Namibie, tout à l'heure à Windhoek. Finale avant l'heure entre les Sud-Africaines et les Nigérianes. Dans l'autre demi-finale, les Camerounaises sont favorites face aux Ivoiriennes qui disputent la deuxième CAN de leur histoire et surtout la première demi-finale. Nicolas Pinault a joint Clémentine Touré, sélectionneur de la Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, ce sera une rencontre très difficile. Pour la Côte d'Ivoire, je pense que c'est une finale. Nous savons que l'équipe du Cameroun est une très bonne équipe. Mais aussi, au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut dire que nous avons des atouts et nous allons nous baser sur nos atouts, donner tout ce que nous avons dans nos tripes pour obtenir la victoire. Parce que c'est vraiment la finale, il faut envisager la Coupe du Monde. Celui qui gagne le match qualifié pour la Coupe du Monde et donc il faut aller vraiment chercher cette Coupe du Monde.
Pour une première participation à une demi-finale de la CAN, pensez-vous que vos joueuses seront relevées le défi?
Il faut dire nous avons une équipe très jeune, une équipe qui est en train d'apprendre. Nous avons participé pour la première fois à une Coupe d'Afrique des Nations en 2012 et aujourd'hui nous sommes présents et par la grâce de Dieu nous sommes en demi-finale. Nous avons travaillé dur pour être là. Nous allons continuer de travailler. Nous savons que ce sera une rencontre très difficile. Le Cameroun a participé à toutes les phases finales de Coupe d'Afrique et elle est passée plus de 6 fois au deuxième tour, c'est-à-dire jouer les demi-finales. Donc c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup d'individualité. C'est une équipe qui sait jouer les compétitions de haut niveau, mais aussi la Côte d'Ivoire a son mot à dire.
C'était Clémentine Touré, sélectionneur de l'équipe de football féminine de la Côte d'Ivoire.
«
Et à présent, la page musicale avec Roger Muntou. Bonjour Roger.
Bonjour Nathalie. Meghan Trainor est déjà à la tête d'un tube surprise aux États-Unis. Pour ses 13 ans, ses parents, Gary et Kelly Trainor, lui offrent un ordinateur pour l'aider à créer ses propres chansons. Résultat, elle est devenue aujourd'hui un véritable phénomène grâce à All About That Bass.
Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top.
Alors Roger, lors d'un de ses déplacements musicaux, Meghan Trainor a rencontré Kevin Kaddish, un producteur nominé aux Grammy Awards, avec lequel elle compose notamment cette chanson, All About That Bass.
Oui, Nathalie, à 20 ans, Meghan Trainor, originaire du Massachusetts, a frappé fort avec sa chanson contre toute attente. Il faut dire que son texte va à l'encontre de tous les standards que les magazines et les médias tentent de montrer au public. Meghan a donc voulu écrire un titre en vantant les mérites des formes et des rondeurs grâce à un message positif sur l'acceptation de soi. La chanson a atteint la première place du Top 10 American Music cette semaine, Nathalie.
Meghan Trainor, All About That Bass, merci beaucoup Roger.
C'est moi qui vous remercie, Nathalie. Bonne journée à vous et à tous nos amis qui nous écoutent et nous appellent, souvent à partir de Nzéré, Corée.
Roger Muntou, que l'on retrouve à 20h, temps universel, dans le RM Show.
I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, because you know I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, because you know I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass,
by that bass. Hey, hey, ooh, you know you're my bass.
Voilà, c'était Le Monde aujourd'hui. Avec vous, Nathalie Barge à la présentation et Anne Albertson à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.
Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.